On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
On va travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des deux centres dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et que le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales, une mécanique impitoyable qui contribue à l'érosion.
Certifié authentique, mon vrai mesure cathartique a pris le maquis acoustique. Ici la périphérie est au centre et des territoires libérés s'inventent. Au point du soir, au point d'ivoire, clair dans le noir, clé en main, claustro clandestin, les cleps au train. J'ai fait de l'angle mort de ma vie une métaphore.
Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices insoumis et insoumises de Radio Canu sur le 102.2 de la bande FM ou sur radiocanu.org. Il est 21h passé de 5 minutes environ et donc vous êtes à l'écoute de l'émission Angle Mort, émission de critique sociale, d'expérimentation sociale. J'ai eu tendance à le zapper les dernières émissions, mais ça fait partie de cette émission et on peut le dire presque d'éducation populaire. Et ce soir est un grand soir, j'ai envie de dire, puisque c'est ce soir que nous allons pouvoir réentendre la voix de cette émission, le poumon de cette émission, voilà, puisque nous notons le retour de Natacha, et voilà, ça fait plaisir, c'est cool. Voilà, et donc Natacha, justement, tu voulais nous dire de quoi tu allais parler.
Merci Eric pour cette présentation qui ne fout pas du tout la pression. Oui, ce soir, parce que on était un peu à la bourre. Du coup, ma présentation consistera à lire un article qui s'intitule « La presse quotidienne que l'on dit gratuite », article qui est apparu sur le site d'Acrimed il y a déjà quelques temps, puisque c'était en décembre 2011. Et donc un article qui présente le mode de fonctionnement de la presse quotidienne dite gratuite et son modèle économique, etc., etc. Voilà.
Ok, et moi je vais, en fonction aussi du temps qui restera, hein, mais je vais parler d'un article, un chapitre d'un ouvrage collectif, intitulé « 30 ans après la distinction de Pierre Bourdieu », qui est paru en 2013 sous la direction de Philippe Coulongeon et Julien Duval, deux sociologues français. Et donc l'article que je voulais présenter est un article de Jean-Baptiste Combi et Mathieu Grosse-Tête, dont le titre est « La morale des uns ne peut pas faire le bonheur de tous ». individualisation des problèmes publics, prescription normative et distinction sociale. Voilà, là ça plante le décor.
Quel programme.
Non mais c'est un article que moi j'avais trouvé très très intéressant et voilà, j'en dis pas plus parce que on va tout de suite se lancer un premier titre plutôt avant de commencer cette émission avec donc la question des journaux dits gratuits sur Radio Canyon Angle Mort. Toujours donc à l'écoute d'Angle Mort avec un titre qui
était magnifique, c'était magnifique.
J'étais sûr que tu allais apprécier.
Ah ouais.
C'était mon cadeau pour ton retour.
Merci.
Voilà, donc c'était rapide, ça pulsait bien. J'espère qu'on a encore quelques auditeurs après ce titre. Et c'était donc Lightning Bolt avec Assassin. Voilà. Et puis maintenant, je te laisse la parole.
Eh bien, merci. Du coup, comme je l'annonçais tout à l'heure, donc il s'agira de vous proposer une lecture d'un article paru sur le site Acrimed. Acrimed pour Action Critique Média, donc un site qui propose la critique des médias. Voilà. Et donc là, l'article dont il s'agit était paru en ligne en décembre 2011 et s'intitulait « La presse quotidienne que l'on dit gratuite » avec en sous-titre « Parce qu'elle est payée par la publicité que paient les consommateurs ». Donc un article qu'on doit à Jean Pérès. Je commence donc la lecture. Des deux grandes composantes de la presse quotidienne gratuite, la presse gratuite d'annonces qui diffuse des petites annonces et la presse gratuite d'information, la première est en totale déconfiture alors que la deuxième se porte fort bien. Elle est même devenue un acteur dominant dans la sphère, devenue relativement étroite en France des journaux quotidiens d'information générale. Mais, si l'on peut dire, à quel prix ? Dernier épisode du déclin de la presse gratuite d'annonces, la mise en liquidation judiciaire en novembre 2011 de la Comareg et de son centre d'impression Hebdoprint. Cette faillite de filiale du groupe R100 Média, de sinistre réputation, provoque le licenciement de 1650 salariés, triste record des plans de licenciement de l'année 2011 après celui de 758 salariés en février dernier dans le même groupe. La Comareg éditait Paru Vendu, le numéro 1 de la presse gratuite d'annonces en France, avec 280 éditions locales et 15 millions de lecteurs hebdomadaires. Endettée à hauteur de 250 millions, la Comareg et surtout ses salariés sont victimes de la migration et de la gratuité des petites annonces sur Internet qu'elle n'a pas su anticiper. Le contraste est saisissant avec la presse gratuite d'information et tout particulièrement la presse quotidienne qui nous intéresse ici. Métro, 20 minutes, Direct Matin, Réseau Ville Plus. Les journaux quotidiens que l'on dit gratuits, l'apparence de gratuité de la presse dite gratuite tient à la distance et aux médiations qui séparent ses consommateurs lecteurs de ses bien réels acheteurs. Financés par la publicité qu'ils diffusent, les journaux dits gratuits sont en réalité payés par les consommateurs, non pas quand ils acquièrent le journal, mais quand ils achètent les marchandises. Car dans le prix des marchandises sont évidemment intégrés les frais de publicité. Payé à l'avance par les consommateurs des produits qu'il promeut, le journal peut ainsi s'offrir le luxe de se présenter comme gratuit. Ces journaux sont devenus en moins de 10 années les premiers quotidiens d'information générale en France, tant par la diffusion que par leur audience, c'est-à-dire le nombre de leurs lecteurs. Et pas seulement en France. Métro International est devenu dans le même temps le premier quotidien mondial d'information générale, loin devant les Japonais et le New York Times, avec 7 millions d'exemplaires diffusés et 17 millions de lecteurs. Une telle progression est unique dans l'histoire de la presse quotidienne. Elle peut paraître d'autant plus étonnante qu'elle intervient dans un moment où ladite presse connaît une accélération de la crise la plus grave de son histoire, qui l'affecte depuis le début des années 70. Mais en dernière analyse, elle apparaît bien plutôt comme la conséquence logique de l'évolution d'ensemble de la presse dite payante. Le lecteur consommateur, que les études de marché désignent comme cible du marketing intensif des gratuits, est jeune, vit dans des villes plutôt grandes et il a un travail. Jeune, actif, urbain, telle est, en trois mots, la proie des quotidiens gratuits, tous titres confondus. Proie d'autant plus vulnérable qu'elle lit généralement peu les quotidiens traditionnels. C'est pourquoi les producteurs de gratuits choisissent les grandes villes comme unité géographique de diffusion et dans ces villes, les lieux où ils peuvent atteindre leur cible. S'agissant d'actifs, ce seront les transports en commun à l'heure où les actifs les utilisent pour aller au travail, soit le matin entre 7 et 9 heures, et aussi d'autres lieux du type université, Disneyland, McDonald's, café, Club Med, centres commerciaux, parking, cinéma, investis par cette catégorie de population. 20 minutes propose même un service de livraison aux entreprises intéressées, à la condition qu'elles soient d'une certaine dimension. La distribution des journaux est ainsi assurée directement par des équipes de colporteurs ou au moyen de dépôts dans des présentoirs sur les zones de passage. Le lecteur est servi, il n'a pas à se déplacer dans un lieu spécifique comme pour le reste de la presse. Cette différence est fondamentale. Le quotidien payant ne s'adresse pas directement à ses lecteurs ou du moins ne peut que chercher à les attirer sur son lieu de vente où il est en concurrence avec tous les autres journaux. Le gratuit, au contraire, va directement au-devant de son lectorat et ne doit affronter que la concurrence, assez farouche, il est vrai, des autres gratuits. Les périodes de distribution sont également calées sur la dite cible, donc ce jeune actif urbain. Les gratuits ne paraissent que 5 jours par semaine, pas le samedi ni le dimanche, ni les jours fériés, ni pendant les vacances scolaires, ces moments où le gros de la cible ne travaille pas et qui sont peu favorables aux investissements publicitaires. Exemple célèbre, les gratuits n'ont pas relaté dans la semaine qui l'a suivi le tsunami du 26 décembre 2004 puisqu'ils ne paraissaient pas. La forme et le contenu du journal sont également choisis en fonction de la cible à atteindre, donc toujours ces jeunes actifs urbains, dont les goûts et comportements font l'étude d'objets constantes. Pour ce faire, les gratuits ont recours à des sociétés spécialisées. Ainsi, pour Métro, selon Isabelle Saint-Paul, directrice marketing et communication à Métro, donc, je la cite, « Grâce à son panel de 45 000 lecteurs dans 10 pays, Métro observe en permanence les modes de vie urbains. Il a dressé en 2008, en partenariat avec JFK, troisième groupe mondial d'études de marché, un portrait du consommateur urbain d'information. Il valorise la liberté et le choix dans tout ce qu'il fait, ce consommateur urbain d'information. Il personnalise sa consommation, scrute tout, recherche le divertissement dans son travail et ses relations sociales. Il cherche à collaborer avec les autres en exigeant d'eux intégrité et transparence. Il s'attend à ce que tout lui arrive vite et avec une touche systématique d'innovation. D'où la création permanente de nouvelles propositions éditoriales, de nouveaux formats publicitaires et le lancement international en août dernier d'une formule totalement nouvelle de Métro qui sera déclinée dans tous les pays, le Chili, la Suède et la France, ayant fait office de pays pilote. Donc je citais Isabelle Saint-Paul, directrice marketing et communication chez Métro. Enfin, à l'époque en tout cas. 20 minutes a recours à Asterope, spécialiste du, ce qu'on appelle, alors, du entre guillemets, géomarketing décisionnel. Ainsi que le relève Dominique Calfon. Le gratuit, donc là je cite Dominique Calfon, le gratuit a donc fait appel dès 2006 à la technologie et aux bases de données d'Asterope qui exploitent des informations liées au recensement général de la population et des bases constituées sur la nature socio-démographique des emplois. Le but, déterminer les points de distribution et équilibrer les volumes des différentes éditions. Quant à Direct Matin, il bénéficie, selon Marie Bénilde, d'un agent de poids. Le milliardaire Vincent Bolloré confie la conception éditoriale de ses quotidiens gratuits à une agence de publicité, Euro-RSCG, et à son patron, Jacques Séguéla, voilà, vice-président du groupe Havas, dont l'industriel, donc Bolloré, est le propriétaire. Conséquence de cette sollicitude, on met l'accent, selon Rémi Riffel, alors Rémi Riffel, c'est quelqu'un qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Mythologie de la presse gratuite ». Donc, conséquence de cette sollicitude, on met l'accent sur le visuel, sur les différents niveaux de lecture possibles, sur le discours rapporté, micro-trottoir, interview en trois questions, citation du jour, sondage, etc. L'information doit donc apparaître comme divertissante, mettre en exergue le côté fun de l'existence. On insistera alors volontiers sur les loisirs, les sorties, le sport, les nouveaux objets high-tech, le net, les derniers potins concernant les personnalités people, etc. La présentation des gratuits est donc soignée. Impression de qualité, couleurs, photos, pour signifier que la gratuité n'est pas synonyme de baisse de qualité et ne pas rebuter... Ah, il y a le téléphone en même temps. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui appelle. Alors, excusez-moi, j'ai été perturbée dans la lecture par un appel sur le standard de l'émission. Et donc, je ne sais même plus ce que j'ai raconté. je vais reprendre le petit paragraphe dès le début. Donc, la présentation des gratuits est donc soignée, je disais. Oui, c'est ça. Impression de qualité, couleur, photo, pour signifier que la gratuité n'est pas synonyme de baisse de qualité et ne pas rebuter les annonceurs haut de gamme, ainsi que le souligne Pierre-Jean Bozo, président de 20 Minutes France. Donc je cite Pierre-Jean Bozo. Il faut que ce soit un sans-faute au niveau technique afin de permettre aux annonceurs, comme L'Oréal par exemple, d'acheter des encarts publicitaires dans le titre sans crainte. Alors, la une reproduit le modèle des quotidiens classiques, parfois en deuxième position après une page de publicité, désignant ainsi leur appartenance à la même famille. En même temps, la mise en page est fortement inspirée par les sites internet et la culture du zapping. Les articles sur l'actualité internationale ou nationale, sont aussi dépolitisés que possible, conformément aux souhaits de la cible, entre guillemets, ou plus exactement de leur désir sondé. Et surtout, à l'intérêt des annonceurs qui souhaitent un environnement consensuel et craignent que des positions trop tranchées ne réduisent le nombre de lecteurs-consommateurs. Enfin, la présence de pages locales, facilitée par l'édition par ville, répond au souci d'une information de proximité à laquelle les lecteurs de gratuits sont sensibles, ainsi que les annonceurs locaux. Tout est construit en fonction des attentes réelles ou supposées de la cible, convoitée et de ses capacités d'ingestion d'informations et de publicité dans le temps et les conditions du transport vers le lieu de travail. Je vous propose une petite pause musicale pour faire un petit intermède à la lecture, et on reprendra la lecture de cet article consacré à la presse quotidienne que l'on dit gratuite.
Eh bien, donc, on va faire une pause avec, eh bien, ça va être Dubmix et le titre Manipub.
Serge Dassault, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur maire UMP de Corbeil-Essonne, PDG du groupe Dassault. Cette année, vous avez pris le contrôle de la Surpresse, qui regroupe 70 titres, dont Le Figaro.
C'est pas des journaux indépendants, quoi. Ils appartiennent à des gros groupes de presse qui représentent des patrons qui sont liés directement aux politiques.
Formule assez inquiétante, la presse doit diffuser des idées saines. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Nous sommes en train de crever à cause des idées de gauche qui continuent.
Alors, je poursuis la lecture d'un article paru sur le site d'Acrimed qui s'intéresse à la presse quotidienne que l'on dit gratuite. J'ai évoqué dans un premier temps le fait que les gratuits se vendaient bien, que les gratuits visaient une cible particulière, le jeune actif urbain, cible dont les désirs sondés correspondaient assez bien aux intérêts des annonceurs qui souhaitaient un environnement consensuel et craignaient que des positions trop tranchées ne réduisent le nombre de lecteurs consommateurs, et puis donc que tout était construit en fonction des attentes réelles ou supposées donc de cette cible, etc., etc. Je poursuis. C'est une synthèse hyper rapide. Donc c'est une coïncidence pour le moins heureuse que les prétendues attentes des lecteurs des gratuits, entre guillemets, correspondent généralement, comme nous venons de le voir, aux souhaits des annonceurs. C'en est une autre tout aussi heureuse que ces attentes soient satisfaites par la solution généralement la moins onéreuse pour le journal. Articles courts, récupérables auprès des agences de presse, files d'information, Google, etc. Ou encore, comme chez Metro, des articles stockés dans la banque d'articles du groupe mondial et disponibles pour chaque entité locale. Pour satisfaire à ses besoins rédactionnels, une équipe réduite de journalistes polyvalents, c'est-à-dire bons à tout faire, suffit, en nombre bien moindre que ceux des payants et moins bien payés. Pour vendre 100 000 exemplaires, un payant rémunère en moyenne 180 journalistes, alors que pour la même diffusion, le gratuit n'emploie qu'environ une vingtaine de personnes, souligne Alain Johannes. Tandis que Rémi Riffel précise, ces journaux et magazines gratuits ont tendance à recruter des jeunes qu'ils rémunèrent peu. Les salaires sont en moyenne inférieurs de 25% à ceux de la presse parisienne payante, et à faire appel à une armada de pigistes au statut précaire, ainsi qu'à externaliser certaines tâches. C'est le cas de 20 minutes qui sous-traite à des petites agences certaines rubriques telles que Paris Guide ou Coulisses TV. Si bien que l'on peut se demander si le choix du moindre coût n'est pas plus décisif que celui de la cible, ainsi que le laissent clairement entendre plusieurs auteurs, Dominique Auger, Marie-Christine Lipani-Vessat, Denis Ruelland et Jean-Michel Hutard, les auteurs d'un article intitulé « Dis à qui tu donnes, la presse quotidienne gratuite ou le marketing du don » dans un ouvrage qui s'appelle « Le journalisme en invention, nouvelles pratiques, nouveaux acteurs ». Donc, si je reprends, si bien que l'on peut se demander si le choix du moindre coût n'est pas plus décisif que celui de la cible, ainsi que le laisse clairement entendre plusieurs auteurs, je les cite donc, le recours important aux dépêches et aux communiqués, abondant et peu cher, se justifie d'un point de vue économique et leur usage vient légitimer le projet éditorial. Autrement dit, les créateurs de journaux gratuits et les équipes qui animent ceux-ci maintenant n'ont pas choisi d'apporter une matière concise et factuelle au lecteur au détriment d'une approche fouillée et analysée. Ils ont estimé que le coût de revient de cette information était infiniment plus bas et que, dans le contexte de la gratuité, c'était la seule qui puisse être fournie, du moins dans un premier temps. La technique du marketing consisterait alors à convaincre les jeunes actifs urbains que cette forme d'information correspond à leurs besoins, alors qu'elle n'est que le produit d'une rationalisation maximale des coûts. Cette politique du coût minimum s'étend à la distribution et à l'impression. La distribution autonome des gratuits engendre des coûts qui s'élèvent pour Metro, par exemple, à 30% du coût total, ce qui est inférieur à ceux de la presse payante, pourtant mutualisée. Les frais d'impression, quant à eux, ont été négociés au plus bas prix, sachant que les contraintes temporelles imposées par l'actualité sont beaucoup plus importantes pour les payants que pour les gratuits. En effet, l'impression des gratuits demande moins de manœuvre, permet de faire tourner les rotatives sous-utilisées et du point de vue du syndicat du livre, de maintenir des emplois. Ce sont ces éléments que souligne Emmanuel Schwarzenberg. Alors, dans un ouvrage, Emmanuel Schwarzenberg, qui s'appelle « Spéciale dernière », quand on imprime un payant, le démarrage des rotatives est retardé au maximum pour incorporer les informations de dernière minute. Un gratuit, en revanche, n'a pas besoin d'être livré à une heure précise, à la minute près. Il peut prendre place sur la rotative à n'importe quel moment et il peut même passer d'un imprimeur à l'autre. Cela lui permet d'obtenir de meilleures conditions financières. En fait, les gratuits sont imprimés sur les rotatives des quotidiens payants au tarif du labeur, c'est-à-dire des magazines, avec des coûts inférieurs d'au moins 25% à ceux du marché, sinon davantage. L'impression de Metro est ainsi facturée trois fois moins cher que celle d'un payant. Minimaliste, aseptisée, anhistorique et apolitique, distrayante et peu coûteuse, l'information selon les gratuits entre guillemets a toutes les caractéristiques d'une formule qui peut se greffer sur n'importe quelle partie du monde, pourvu qu'il y ait des villes, des transports en commun et des annonceurs. Comme un modèle de voiture, une marque de boisson ou de hamburger peuvent le faire à leurs conditions spécifiques. Cette capacité de reproduction à l'échelle régionale pour Direct Matin, régionale et internationale pour Métro et 20 minutes est une première dans l'histoire de la presse écrite. Direct Matin produit en effet 12 éditions régionales dont certaines sont réalisées en partenariat avec le réseau Ville Plus auquel participe aussi la presse quotidienne régionale payante. 20 minutes a quant à lui 12 éditions en France, 14 éditions en Espagne et 7 en Suisse. Et quant à Métro, il est présent dans 15 villes en France et produit 130 éditions dans 22 pays sur tous les continents sauf l'Afrique. Facilité par l'uniformisation des modes de vie, l'urbanisation et le développement des transports en commun et contribuant en retour à cette uniformisation, les gratuits, entre guillemets, se distribuent dans le monde entier à la même cible, les jeunes actifs urbains, c'est bien Eric, tu suis, selon les mêmes méthodes, évidemment adaptées aux conditions locales. Paradoxalement, les gratuits, entre guillemets, nous viennent de pays scandinaves où la presse quotidienne payante est la plus lue d'Europe, de Suède pour Métro et de Norvège pour 20 minutes. En Suède, on compte 472 exemplaires de journaux vendus pour 1000 habitants, soit 4 fois plus qu'en France. En Norvège, ce sont 607 exemplaires pour 1000 habitants. Ils sont lancés par des groupes qui ont une certaine capacité financière, le fonds d'investissement Investment AB Knigvik, via sa filiale Modern Times Group pour Métro, Schibsted ASA pour 20 minutes, et Direct Matin, quant à lui, est un produit purement français du groupe Bolloré.
Ah.
Non, il faut faire bouh.
Ah, bouh. Voilà.
Lancé d'abord en Suède pour Métro et en Suisse pour 20 minutes, les deux gratuits internationaux ont pénétré en France en 2002. Ils y furent d'abord très mal accueillis. Les ouvriers du livre ont pris à partie les colporteurs de Métro et détruit nombre d'exemplaires du journal, parce que l'impression du gratuit se faisait en dehors de leur contrôle, dans des imprimeries dites de labeur. Les quotidiens payants, de leur côté, ont protesté contre une presse au rabais qui leur faisait une concurrence déloyale. Mais très vite, et même parfois en même temps, ce qui a pu éveiller le soupçon d'un double jeu, notamment de la part de la direction du Monde, la pratique a été plus conciliante et les gratuits, entre guillemets, se sont assez rapidement inscrits dans le paysage médiatique et le mobilier urbain, où ils ne dérangent apparemment plus personne. On peut même parler d'intégration des gratuits dans les médias de l'Hexagone. Ainsi, Ouest France détient 50% de 20 minutes France. Alors tous ces chiffres, hein, ils datent de 2011, parce que l'article date de 2011. On peut imaginer même que ça s'est accéléré, accru, empiré. Donc ainsi, Ouest France détient 50% de 20 minutes France. Tandis que Le Monde détient de son côté 30%, avec, alors à l'époque l'auteur écrivait, avec la possibilité de monter à 50% de Direct Matin, qu'il imprime sur ses rotatives. Jusqu'en 2010, ainsi que la moitié de l'édition parisienne de 20 minutes. Donc ça, c'est pour Le Monde. Exemple le plus récent, Métro France est devenu fin juin 2011 propriété à 100% de TF1, du groupe Bouygues. Et du côté de la presse quotidienne régionale, le réseau Ville Plus des groupes Scope Press et Dassault, et Hachette Philippe Hachy Média, c'est Lagardère, puis R100 Média, en partenariat avec le groupe Bolloré, édite des gratuits dans des villes de province pour concurrencer Métro et 20 minutes. Ainsi, certains des grands groupes de médias ont associé les gratuits, entre guillemets, à leur stratégie commerciale, ce qui leur permet certains échanges de bons services, généralement ignorés du grand public, entre entités du même groupe. Direct Matin, du groupe Bolloré, par exemple, peut ainsi consacrer 3 pages, fait exceptionnel pour un gratuit, de son édition du 5 décembre 2011 à la promotion extasiée du dispositif Autolib, des voitures électriques en libre service en Île-de-France conçues par le groupe Bolloré. Il fallait suivre, Eric. Donc voilà, Direct Matin du groupe Bolloré qui consacre 3 pages à Autolib qui a été conçu par le groupe. Oh non, mais c'est pas possible, tu dors. Bolloré.
Ah oui.
Voilà. Et cela sans la moindre indication de publicité. C'est le même Direct Matin qui met systématiquement en exergue les programmes des 2 chaînes du même groupe, Bolloré, Direct 8 et Direct Star. Bouygues n'est pas plus gêné de faire dans Métro, qui lui appartient désormais, la promotion de sa chaîne de télévision, TF1, et de son entreprise de travaux publics. Mais l'essentiel n'est pas là. Il est plutôt dans le fait que les journaux payants, après une rébellion de façade, ont adopté les gratuits, soit par des participations directes, comme Le Monde et Ouest-France, on l'évoquait plus haut, soit en créant leur propre gratuit comme une bonne partie de la presse régionale, soit encore sur le plan des contenus, comme Le Monde et Courrier International, qui fournissent chaque jour des articles à Direct Matin. Peu concurrentiel sur le plan de l'audience, puisqu'ils touchent un lectorat différent de celui des payants. Les gratuits sont surtout dangereux pour eux en raison de leur succès auprès des annonceurs. Du fait de leur audience spécifique croissant en permanence, et pour d'autres raisons, cibles mieux définies, projets publicitaires plus faciles à gérer pour les agences de publicité, etc., etc., les gratuits d'information quotidienne ont drainé une part également toujours croissante des recettes publicitaires, quand celle des payants baissait continuellement. Et on sait que la question des recettes publicitaires est au cœur de la crise de la presse payante aujourd'hui. C'est pourquoi on peut penser que l'adhésion sous différentes formes des payants au gratuit est pratiquée par les payants pour tenter de pallier partiellement leurs propres difficultés. Mais en prenant le recul historique nécessaire, on peut se demander si le gratuit entre guillemets et son financement par la seule publicité ne sont pas la forme aboutie d'une tendance lourde au sein de la presse payante elle-même. N'a-t-on pas vu la presse quotidienne nationale et plus encore la presse magazine faire de plus en plus de place aux exigences des annonceurs jusqu'à modifier, voire inverser, leur politique éditoriale ? Toute l'histoire d'un quotidien comme Libération en témoigne et à bien des écarts celle des autres journaux. Dominique Auger, Marie-Christine Lipani-Vessade, Denis Rouelan et Jean-Michel Hutard, déjà cités, résument ainsi l'inscription des « gratuits » entre guillemets dans l'histoire de la presse. Les journaux gratuits instaurent moins une rupture par rapport au journalisme de la presse payante qu'ils ne radicalisent les évolutions que celle-ci a engagées de longue date. Ils sont la partie visible d'un iceberg constitué par la marchandisation du produit presse. La presse se repense en profondeur. Elle résonne en termes de marché, de concurrence, de satisfaction du lectorat, d'efficacité des espaces publicitaires. Le changement majeur des dernières années est la syndication publicitaire. À l'intérieur d'un même groupe de presse ou entre groupes de presse différents, les journaux s'allient dans le but de rendre leur espace publicitaire plus attractif pour les annonceurs. Ce qu'un autre auteur, Emmanuel Marty, affirme à son tour, la presse quotidienne nationale semble avoir plié sous le poids de la concurrence des autres médias bien avant Internet et les gratuits, appauvrissant son style, allégeant sa densité, relouquant sa mise en page, elle s'est progressivement aseptisée. En voulant séduire le lecteur et ménager son travail en réception, on peut penser qu'elle l'a rendu plus passif, plus assisté, proposant un contrat de lecture basé sur le confort cognitif. La presse quotidienne nationale a opéré ce changement par glissements successifs, subrepticement, mais à part ce biais ouvert la voie, oh là là, heureusement que j'arrive à la fin de la lecture de l'article, mais à part ce biais ouvert la voie à une presse quotidienne gratuite volontairement minimale. On ne saurait mieux dire. Et donc j'en arrive à la conclusion de l'article de Jean Pérez consacré à la presse quotidienne que l'on dit gratuite. Enfin la conclusion non, mais en tout cas le dernier petit paragraphe. Le modèle économique classique de la presse est celui d'un double financement par les lecteurs qui achètent le journal et par les annonceurs qui achètent des espaces publicitaires. Donc on retient double financement, les lecteurs qui achètent le journal, les annonceurs qui achètent des espaces publicitaires. Ce double financement a été et est encore source de tensions permanentes dans la mesure où la liberté de l'information, chère aux journalistes, à certains en tout cas, et aux lecteurs, peut porter quelques préjudices à l'autre financeur, les entreprises, les annonceurs, via des reportages, des approches critiques, les mettant en cause. Or, ce modèle dominant, donc on le répète, des lecteurs qui achètent le journal, des annonceurs qui achètent des espaces publicitaires qui permettent le financement de la presse. Donc or, ce modèle dominant semble irréversiblement en déclin, la baisse constante des ventes n'étant pas compensée, malgré des efforts pathétiques en ce sens, par un surcroît de recettes publicitaires, et inversement, la baisse des recettes publicitaires n'étant pas compensée par une augmentation du nombre de lecteurs. La presse gratuite, elle, opère une rupture avec ce modèle en se finançant par la seule publicité. Cette rupture redéfinit ouvertement le journal comme fournisseur de clients aux annonceurs et réoriente toutes ses composantes, formelles comme de contenu, dans ce sens. Le lecteur n'est alors sollicité qu'en tant que consommateur, qu'il s'agisse indifféremment des annonces ou des articles, puisqu'il n'y a plus de contradiction entre eux, puisqu'ils doivent avant tout séduire ce lecteur et non pas, par exemple, l'instruire, l'éduquer ou simplement l'informer un peu sérieusement. Le gratuit, entre guillemets, est une marchandise à part entière ou plutôt une publicité à part entière déguisée en journal. Comme le dit Rémi Riffel, ils ne vendent pas prioritairement du contenu à des lecteurs consommateurs, mais des lecteurs consommateurs, donc de l'audience, une audience à des annonceurs. Ce nouveau modèle a l'incontestable mérite d'avoir résolu la contradiction qu'on évoquait tout à l'heure, devenue insoutenable entre les exigences des annonceurs et celles des lecteurs, et cela en faveur des annonceurs, qui lui sont d'ailleurs chaque jour reconnaissants. Quant aux lecteurs... Voilà, donc cet article paru en 2011 sur le site Acrimed, Action Critique Média, et qu'on retrouve en ligne sur ce site.
Petite pause avant la suite d'Angle Mort avec un titre de ZX des premières années, hein, encore donc dans du punk minimaliste, et la chanson Squat Song. Radio Canu, émission Angle Mort, émission de critique sociale. On parlait à l'instant avec Natacha donc des médias et donc de l'essor de la presse dite gratuite, qui a eu comme effet notamment une dépolitisation de l'information. Voilà. Et justement, moi je voulais parler, alors je vais faire un peu vite parce qu'il nous reste 15 minutes, d'un article qui est un petit peu lié à ce genre de questions. Donc je le disais en introduction, un article de Jean-Baptiste Combi et Mathieu Grosse-Tête intitulé « La morale des uns ne peut pas faire le bonheur de tous ». Donc c'est un article qui donc est publié dans un livre qui fait le bilan un peu de l'activité du livre de Pierre Bourdieu, qui était paru en 1979 et qui est devenu un des principaux livres de sociologie et qui est un livre magistral à mon sens. Hein. Donc cet article va associer cette tradition théorique de Bourdieu avec une autre. Donc pour redire très vite le cadre analytique de Bourdieu, de la distinction, l'idée c'est que nos goûts sont situés par notre place dans l'espace social, notre parcours au sein de l'espace social, donc ils nous classent dans l'espace social, donc nos goûts pour des choses différentes, hein, que ce soit en termes de musique, en termes d'habillement, en termes de consommation alimentaire, etc. Et ce qu'observe Bourdieu, c'est que la manière légitime de consommer les biens culturels qui s'imposent comme légitimes à un moment donné sont quasi monopolisés par les classes dominantes. Et c'est par ce biais-là, notamment, c'est une des contributions à la production de hiérarchie sociale entre ces classes dominantes et les classes populaires. C'est-à-dire par ce biais-là que les classes dominantes arrivent à se distinguer et renvoient finalement les classes populaires à la barbarie. Parce qu'ils n'ont pas cette capacité d'être civilisés dans leur manière. Ils n'ont pas la manière de vivre des dominants, n'ont pas les mêmes goûts, etc. Donc ça, c'est la première premier élément, on va dire, qu'utilisent les auteurs. La deuxième tradition, c'est plutôt des auteurs américains comme Howard Baker et Joseph Gusfield, qui sont intéressés aux normes et à comment des normes s'imposent. Et notamment, par exemple, Joseph Gusfield montre comment le problème de l'alcoolisme et de la conduite en état d'ivresse est devenu un problème public, au sens où on considérait que c'est un problème qui concernait effectivement la société, qu'il fallait traiter, etc. Donc on traitait dans les médias tout ça, à partir du moment où sont montées en puissance certaines classes sociales qui ont porté des normes de tempérance, on va dire. Et donc, selon cette tradition théorique, on va parler de croisade morale, donc de promotion de normes, d'entrepreneurs de morale, etc., qui, sous couvert de motivations humanitaires, etc., en fait, vont imposer des normes à d'autres groupes sociaux qui ne les partageaient pas forcément au départ. Et donc, eux, leur objet dans cet article, c'est de souligner qu'il y a eu une individualisation des problèmes publics. Donc à partir de cas, eux, ils ont travaillé. Donc d'une part, les accidents de la route, notamment, donc les problèmes de sécurité routière, et d'autre part, les problèmes, on va dire, environnementaux, le bilan carbone, etc., etc. Et donc, il montre qu'il y a une individualisation du traitement de ces problèmes publics qui va rendre ces processus de moralisation encore plus forts, on va dire. Ils observent en fait une désocialisation des enjeux du débat public, c'est-à-dire qu'on va laisser dans l'ombre le rôle potentiel des institutions, on va les dépolitiser, donc c'est là où ça fait le lien avec ce que tu parlais, qui est une contribution sans doute de ces nouveaux types de médias à ça. On déplace une partie des responsabilités de la sphère publique, des choix collectifs, vers la sphère privée, donc des comportements individuels, c'est là où c'est moralisateur, du coup, ça va être on va dire que c'est les personnes elles-mêmes qui sont responsables de la mortalité routière ou des problèmes d'environnement. Et donc, effectivement, la prise en charge des problèmes routiers et climatiques repose très souvent sur un postulat qui va imputer la responsabilité de ces fléaux à des comportements individuels. Et donc, on va passer sous silence, notamment, le rôle des institutions, mais aussi la contribution différenciée des groupes sociaux à la mortalité routière et aux émissions de gaz à effet de serre. Et c'est ça, eux, notamment, qui va les intéresser. Donc, il s'arrête un petit peu aussi dans cet article parce que Mathieu Grosstedt, je le repère moins, mais Jean-Baptiste Combi travaille beaucoup sur les médias pour essayer de comprendre effectivement d'où vient cette dépolitisation de ces problèmes publics. Donc, il montre que c'est ajusté au temps court de l'évolution des politiques publiques, mais aussi des médias. Donc, il y a un fonctionnement des médias qui favorise cette dépolitisation. Donc, voilà, une multiplication des reportages sur les conséquences de l'insécurité routière ou du surplus d'émissions de gaz de serre qui va être dirigé par une production d'informations simples à moindre frais parce que supposé concerner les lecteurs ou téléspectateurs dans leur quotidien. Et eux estiment aussi que si les médias ont participé, ont accompagné cette individualisation, c'est que ça répondait aussi aux transformations des journalistes, de ce corps professionnel. Et notamment, ils renvoient à des travaux qui ont montré que il y a une homogénéisation sociale de plus en plus forte des journalistes. Quand on regarde les écoles de journalistes, en fait, de plus en plus, c'est des gens qui sont issus du même milieu social. Et ça se renforce. Donc c'est un des éléments qui permettent peut-être de comprendre qu'ils vont se faire les relais de normes sociales qui sont celles, en fait, des groupes dominants. Et en l'occurrence, la norme qui s'impose, ça va être une norme de prévoyance. C'est-à-dire une attitude consistant à prévoir les conséquences futures de ces agissements présents sur autrui et sur la planète. Donc ça ferait appel à des traits de caractère comme la modération, le désintérêt, enfin en tout cas immédiat et individuel, l'altruisme ou la tempérance. Et donc, eux, contre cette manière habituelle de voir ces problèmes comme la mortalité routière, etc., ils vont aller chercher quand même des données un peu plus sociologiques, justement. Et en fait, ils vont montrer que la contribution à la mortalité routière et aux émissions de gaz à effet de serre dépend de la position que les uns et les autres en occupent dans l'espace social. Plus on s'élève dans la hiérarchie sociale, plus la prévoyance semble s'accroître. Et donc, la mortalité routière, en l'occurrence, ne frappe pas au hasard. Elle concerne en premier lieu les classes populaires. et elle résulte de la répartition des populations dans l'espace. C'est-à-dire qu'elle va frapper surtout à la campagne. Donc on voit que c'est un phénomène social. C'est pas lié simplement à des choix individuels, des comportements individuels, puisque on peut voir des facteurs sociaux. Et de même, en matière énergétique, on remarque que les membres des catégories sociales élevées se montrent davantage pourvus de bonnes intentions à l'égard de l'environnement. Par contre, ce qui souligne aussi, ce qui est intéressant, c'est que si on parle de l'environnement, en réalité, c'est surtout les classes sociales, on va dire, dominantes qui ont un mode de vie le plus énergivore. Donc effectivement, ils ont un effort ostentatoire, mais en même temps, ils vont pas se priver de faire tourner le lave-vaisselle à moitié vide, de laisser les lumières allumées, de recourir au multi-équipement, ou de, on imagine, de faire un voyage
en avion.
En avion, pour leurs vacances. Pour ce qui concerne la mortalité routière, donc on a vu qu'elle frappe surtout les classes populaires, mais en fait, quand on regarde aussi des analyses statistiques des prévenus déférés en raison d'homicide involontaire, en fait, on note une forte surreprésentation des catégories sociales, on va dire, supérieures, pour dire vite, hein, c'est pas qu'on les considère comme supérieures, mais pour aller vite. Je crois, chef d'entreprise, etc. Voilà, il y a une surreprésentation de ces catégories parmi donc, ceux qui, statistiquement, tuent le plus sur la route. Donc, ce qui leur fait dire, la norme universaliste de prévoyance est d'autant plus profitable aux groupes sociaux qui les dictent, donc les groupes dominants, qu'elle leur permet de masquer leur imprévoyance pour autrui, c'est-à-dire leur importante contribution à l'altération du climat, ainsi que le caractère accidentogène de leur conduite routière. À l'inverse, les classes populaires sont plutôt en fait écologistes, mais à leur insu, et moins dangereuses sur la route pour les autres. Ce qui n'enlève pas qu'effectivement, ce qu'ils remarquent, c'est que il y a une opposition dans les comportements. Traditionnellement, on va voir ça comme des choix individuels, etc. Un bon comportement ou un mauvais comportement. Et effectivement, en fait, les catégories populaires sont plus animées par les contraintes de la nécessité économique, tout simplement. Alors que les classes dominantes vont faire étalage de leur conduite fair-play, de leurs préoccupations environnementales, de leur savoir-vivre, etc. Voilà. Donc ils vont réussir à se faire passer comme des gens prévoyants, etc. Si je parle de ça aussi ici, ça s'inscrit aussi par rapport à certaines petites critiques que j'essaie d'apporter par rapport à... dans nos milieux contestataires, militants, on peut avoir des moments des alternatives qui vont se baser, il me semble, vraiment sur un point de vue totalement individuel, du « il faudrait que les gens, individuellement, fassent attention à leur consommation énergétique, etc. » Et donc, c'est aussi pour critiquer ce genre de comportement, ce genre de vision qu'on va retrouver parfois dans nos milieux, dire « attendez, il y a quelque chose de social qui se joue ici, et en faisant comme si c'était une question de pur comportement individuel, on participe de ces processus de distinction et de renvoyer les classes populaires à la barbarie. Hein, c'est des barbares, ils n'ont vraiment pas compris. Alors bon, les classes populaires, avant tout, elles le font en fonction des contraintes de la nécessité économique. Et donc, ils concluent cette analyse, et je cite leur conclusion, on ne peut comprendre le succès ou l'échec d'une croisade morale, entre guillemets, sans tenir compte des dispositions et de la position qu'occupent les croisés, entre guillemets, dans l'espace social. Si l'individualisation des problèmes publics est le produit des logiques de fonctionnement des champs médiatiques et politiques, ce processus doit également beaucoup aux dispositions sociales des agents investis dans ces entreprises de moralisation des pratiques. L'accès privilégié des groupes sociaux favorisés aux espaces du débat public permet à leurs membres de faire valoir leurs prescriptions normatives, tout en s'assurant du maintien d'un ordre social favorable à la défense de leurs intérêts. En consolidant une lecture des problèmes collectifs centrée sur les responsabilités individuelles, ils se donnent les moyens d'engendrer de la distinction sociale dans des domaines diversifiés de la pratique, les comportements de tous étant contraints de se conformer à la morale de quelques-uns. Voilà, donc pour cette petite présentation d'un article de Jean-Baptiste Combi et Mathieu Grosse-Tête. La morale des uns ne peut pas faire le bonheur de tous, individualisation des problèmes publics, prescription normative et distinction sociale, paru dans 30 ans après la distinction de Pierre Bourdieu, en 2013, qui, moi, m'a vraiment intéressé, ne serait-ce que voilà, de voir que, au-delà de cette capacité des dominants à montrer qu'ils sont prévoyants, écolos, etc., au fond, quand on regarde dans les pratiques, il y a quand même une grosse distorsion. Par rapport à leurs intentions affichées et qu'ils ont une contribution très forte à la consommation énergétique et aussi à la mortalité routière. Ça, c'est ce que je savais pas. Et voilà, c'est assez intéressant, je trouve. Voilà, donc, je crois qu'on en a, fini pour ce soir. On va laisser la place à nos camarades de la causerie.
Avec un peu d'avance, mais ça leur permettra de s'installer tranquillement. Et puis, on vous dit à dimanche prochain, si tout va bien. Voilà, peut-être aussi avec les collègues qui sont qu'on peut plus être là ce soir. Petit coucou à Alexia.
Salut Alexia.
Voilà, et puis on vous dit à dimanche prochain.
Salut.
Bon dimanche.
On se quitte avec les VRP, le roi de la route.
Celui-là, je vais me le faire. Depuis le temps que je roule derrière. Avec sa vieille Fiat pourrie. Je vais lui montrer qui je suis. Ça y est, je vais voir, je m'en vais lui faire voir. Je suis à côté, je vais le doubler. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ouf! Et lui avec sa tonus, je vais lui chatouiller le pare-choc. Il ferait mieux de conduire un bus. Ça va lui faire comme un choc. Portière à portière, de quoi il a l'air? Ça c'est mon bonheur. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ouf, c'est moi le roi de la route.
Je m'amuse à 200 à l'heure.
Je peux faire Paris-Beyrouth
en une demi-heure.
C'est moi le roi de la route.
Mais il est pas pompeux.
Je me faufile sans un doute.
Sans aucune frayeur.
Après un petit gueuleton, ça fait du bien de rouler. Bonjour la gueule du ballon. Si les flics me font souffler, ça leur vaut geler, c'est comme du filet. Mal à digérer, j'ai envie de gerber.
Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer.
Yeah!